grand jury, RTL, Le Figaro, LCI. Invité aujourd'hui, Valérie Pécresse, présidente de la région Île-de-France. Le débat est dirigé par Elisabeth Martichoux.
Bonjour à tous et bienvenue dans ce grand jury RTL Le Figaro LCI. Bonjour Valérie Pécresse.
Bonjour.
Merci de nous réserver ce grand jury quelques semaines seulement après votre élection à la tête de la région Île-de-France. Vous êtes restée assez discrète depuis, on en saura plus sur vos projets et vos convictions dans une heure. Pour vous interroger avec moi, Alexis Brézet, bonjour. Directeur du Figaro. Bonjour. Et Christophe Jacubizine, chef des services politiques de TF1 et LCI. Bonjour, bonjour à tous les deux. Et puis, comme il est de règle maintenant dans le grand jury, depuis le début de la saison, eh bien, Benoît Galeret, de RTL et LCI, nous rejoindra sur ce plateau juste avant la fin de l'émission. Benoît, vous nous direz que ce que ceux qui nous écoutent, qui nous auront écoutés depuis le début, eh bien, quelles sont leurs interrogations avec le hashtag grand jury. C'est bien ça, Benoît?
C'est bien ça. Vous nous posez vos questions, vous n'hésitez pas à envoyer vos remarques avec le hashtag Le Grand Jury sur Twitter, et puis je viendrai vous faire un petit compte-rendu à chaud de tout cela en fin d'émission. À tout à l'heure.
Hashtag Le Grand Jury. Valérie Pécresse, première question un peu perso, comme on dit, personnelle. Qu'est-ce que cette campagne a changé pour vous? C'est vrai que Xavier Bertrand, élu dans des conditions particulières, différentes des vôtres, bien sûr, avait déclaré le soir de son élection, le lendemain, qu'il n'était plus le même. Vous, est-ce que vous en êtes sorti aussi changé? Alors, vous faites de la politique depuis très longtemps. Et autre façon de poser la question, est-ce que le regard sur vous a changé?
Le regard sur moi, je ne sais pas, mais personnellement, oui, je me sens totalement transformée par cette campagne. D'abord parce que c'est une campagne qui a été très longue. En réalité, elle a commencé pour nous en 2012. Donc c'est 3 ans de travail, 3 ans de rencontres, 3 ans d'écoute. Donc évidemment, on n'en sort plus identique. Mais au-delà de ça, puis ça a été une campagne très violente, c'est une campagne très dure. Donc c'est évidemment aussi quelque chose qui vous oblige à mettre votre cœur et vos tripes sur la table. Mais je crois fondamentalement que je sors de cette campagne en femme libre. En femme libre, pourquoi? Parce que
vis-à-vis des partis, vis-à-vis qui?
Mais c'est évident que beaucoup de mes amis politiques et beaucoup de personnalités sont venus me soutenir dans cette campagne. Mais les choix stratégiques, vous savez, à un moment donné, vous êtes seul. Vous êtes seul à les porter. Que ce soit le choix des alliances avec le MoDem, avec l'UDI, mais aussi avec la droite forte et le Parti chrétien-démocrate. Que ce soit le choix de reprendre la campagne après les attentats. Que ce soit... Enfin, toute une série de choix stratégiques ont pesé en réalité complètement sur mes épaules. Et donc vraiment, sur les valeurs, sur le projet, sur les idées, je me sens vraiment libérée. Mmh. Effectivement, libérée des partis, libérée des groupes de pression. Et c'est pour cela,
libérée des logiques d'appareil.
Libérée des logiques d'appareil. Parce qu'on ne peut pas être présidente d'une région de 12 millions d'habitants sans être totalement libre. Et c'est pour ça que cette semaine, j'ai annoncé ma démission de mes responsabilités au sein des Républicains et j'ai quitté la présidence de la Fédération des Républicains
Alexis
des
Yvelines. Brézet.
Vous aviez aussi annoncé votre démission de députée. Est-ce que vous allez la mettre en œuvre, cette démission?
Oui, c'est très important, parce que moi, je veux faire de la région le laboratoire des nouvelles pratiques politiques. Et dans ces nouvelles pratiques politiques, je pense que le fait d'être à 100%, sans cumul, est absolument essentiel. Personne ne pense qu'on résoudra les problèmes d'emploi ou de transport ou de logement ou d'inégalité de l'Île-de-France sans être à 100%. Alors, il se trouve que j'ai eu une mauvaise surprise, si je puis dire, en ce début janvier, c'est qu'un recours a été formé contre mon élection pour la faire annuler. Alors, je viens de prendre possession de ce recours cette semaine. Je suis en train de le faire analyser, expertiser. D'après ce qu'on me dit, il s'agirait d'un recours dilatoire sans fondement et qui serait là uniquement pour permettre...
Qui est déposé par qui, ce recours?
Par un élu socialiste de Noisy-le-Sec qui, semble-t-il, serait plutôt là pour permettre à certains élus de continuer à cumuler leur mandat. Donc moi, je vais avoir le
et
retour...
Et vous, est-ce que ça peut vous permettre aussi de continuer à cumuler? C'est-à-dire, est-ce que si le recours prenait du temps et qu'on dépassait la date butoir, je crois, de mai, pour déclencher une élection partielle avant les prochaines législatives, est-ce que ça serait aussi un alibi pour vous pour continuer à cumuler?
Eh bien, justement, non. Le sujet, c'est qu'effectivement, ça prendra du temps de juger un recours, parce que vous savez qu'il y a en plus une procédure de validation des comptes de campagne qui est très lourde. Donc, le sujet, c'est que si l'expertise que j'ai demandée le dit, et c'est mon intuition, ce recours est dilatoire, eh bien, j'en tirerai les conclusions et je démissionnerai avant.
Avant, quoi qu'il arrive, avant mai en tout cas.
Moi, je démissionnerai dès que je serai,
pour qu'une élection législative soit organisée
donc,
à Versailles.
Et donc, cela se traduira par une législative partielle dans ma circonscription.
Donc, c'est la réponse à ceux qui pourraient soupçonner que vous cherchiez à gagner du temps pour rester député malgré tout, bon, pour des raisons administratives.
Je ne suis pas élu socialiste de Noisy-le-Sec. Je n'ai aucune influence sur eux, mais je vous le dis, si je m'aperçois que ce recours est effectivement dilatoire et qu'il n'est fondé sur aucun argument sérieux, je démissionnerai très vite.
L'engagement est pris et répété. On va en revenir à l'actualité du jour qui est marquée par cette commémoration Place de la République, à la fois des attentats et de la grande marche du mois de janvier. Une belle cérémonie assez sobre, marquée notamment d'ailleurs par la chanson de Johnny. Un petit retour en arrière sur le 11 janvier, vous étiez dans le cortège, une image qui vous restait de ce jour-là?
C'était un moment extraordinairement émouvant. Et je pense que derrière cette manifestation, moi, c'est la première fois que je voyais des drapeaux français aux fenêtres. C'est vrai que on a eu le sentiment qu'on était la France et que ça nous forçait à nous interroger sur justement quelles sont nos valeurs. Qu'est-ce qui fait qu'on est un pays pas comme les autres? Qu'est-ce qu'on fait qu'on est une nation pas comme les autres? Qu'est-ce qu'on fait qu'on a un message universel à porter? Et je pense que cette réflexion, elle a aussi été très présente dans la campagne régionale. Il ne faut pas se tromper. Vous savez, le 13 novembre a endeuillé la campagne. Et au lendemain du 13 novembre, il y a eu une volonté de la gauche de continuer à faire campagne, comme si de rien n'était, sur les communautarismes.
Mais on va rester
cette question est importante
sur la commémoration.
Je pense que nous devons être d'un républicanisme intransigeant.
On va y revenir.
Un an après Charlie, on sort d'une semaine de commémoration, il y en a eu beaucoup, et on a l'impression qu'aujourd'hui, Place de la République, il n'y avait pas grand monde. Est-ce que vous pensez qu'il y a une certaine lassitude des Français vis-à-vis de ça?
Ce qui est évident, c'est que nous avons un devoir de mémoire, et que, voilà, on est à un an d'un événement tragique qui a vraiment marqué l'histoire de France et qui continuera durablement à le marquer. Donc je comprends ce devoir de mémoire, y compris vis-à-vis des victimes, de leurs familles et de leurs proches. Et j'ai participé, moi, à cette semaine de commémoration, y compris hier, où j'ai allumé une bougie à l'hyper-cachère de la porte de Vincennes. Mais je pense aussi que ce devoir de mémoire nous commande un devoir d'action et que le sujet aujourd'hui pour les Français, c'est vraiment l'action concrète.
Mais François Hollande a multiplié les commémorations. Il a eu raison, c'est important.
Vous savez, il ne faut oublier personne dans ces semaines de commémoration. Et c'est vrai que rien n'aurait été plus dommageable que de sembler donner la priorité à telle ou telle douleur.
Christophe Jacubizine.
Un nouveau volet du débat sur l'après-Charlie, c'est ce débat autour de la révision de la Constitution et notamment de la déchéance de nationalité. Vous êtes toujours, vous, si on a bien compris, pour la déchéance pour tous, c'est-à-dire c'est l'idée qu'on ne peut pas distinguer entre deux catégories de Français, ceux qui sont binationaux et ceux qui ne le sont pas, on est d'accord? Vous avez évolué aussi?
Non, ma position est un peu plus compliquée que ça. D'abord, je veux qu'on redonne son prix à la nationalité française. Le sujet, c'est qu'une nationalité, ce n'est pas un droit, c'est un privilège. Il y a des personnes en France qui se sont battues pendant des années pour avoir la nationalité française. Donc quand on prend les armes contre son pays, quand on déteste la France, il n'y a aucune raison qu'on garde la nationalité française. Donc moi, je suis favorable à la déchéance de nationalité. Et j'ajoute que cette mesure de la déchéance, elle n'est pas seulement symbolique. Moi, j'ai entendu dire qu'elle est symbolique. Mais elle n'est pas seulement symbolique.
Et symbolique, elle ne sert à rien, notamment à prévenir les actes de terrorisme.
Mais détrompez-vous, Madame Martichoux. Un Français binational qui partirait faire le djihad et qui serait déchu de sa nationalité n'aurait plus le droit d'entrer.
Mais pourrait
ne plus avoir le droit d'entrer.
Pour le peu plus exactement, pourrait être expulsé.
Un binational qui serait déchu national, exactement, pourrait être expulsé vers un autre pays. Et on l'a fait à de nombreuses reprises. Donc ça peut être une mesure efficace aussi.
Mais pour un Français sans double nationalité.
Alors je réponds à votre question. Moi j'aurais préféré une solution uniforme pour tous les Français, quelle que soit leur histoire, c'est-à-dire les binationaux et les uninationaux. Mais vous me l'enlevez de la bouche, je crois que concrètement, ça n'est pas possible de créer des apatrides. D'abord, je ne vois pas comment on peut concrètement gérer cette situation.
Donc vous êtes d'accord avec Manuel Valls, en fait. Au fond, c'est la proposition du gouvernement que vous allez voter.
Non, moi ce que je souhaiterais...
Si vous êtes encore député.
Non, monsieur Jacubizine, ce que je souhaiterais de la part du gouvernement, c'est qu'il y ait une sanction absolument exemplaire et, j'allais dire, de même nature en tenant compte des difficultés de la patrie, mais de même nature qu'on soit binational ou qu'on soit...
Donc plutôt dégradation de citoyenneté,
indignité. Exactement. Ouais. Je voudrais la déchéance de nationalité pour les binationaux et une peine, j'allais dire, quasiment équivalente d'indignité nationale pour ceux qui n'ont qu'une seule nationalité et à qui on ne peut pas retirer.
Et est-ce que vous êtes pour étendre la déchéance au délit aujourd'hui? La déchéance ne serait prévue que pour les crimes terroristes. C'est ce que réclame l'Assemblée républicaine, dont Nicolas Sarkozy. Alors, il faudrait l'étendre au délit, sachant que partir faire le djihad est un délit.
Alors, je suis un petit peu nuancée sur cette question. Je préférerais qu'on criminalise le fait de partir pour le djihad. Pourquoi ? Parce que délit, c'est très large. Délit, ça peut être n'importe quel...
loger des terroristes en
ça peut être n'importe
par exemple,
quelle complicité, y compris des complicités familiales, j'allais dire, malgré soi.
C'est le fait de partir faire le djihad.
Une mère qui dénonce pas son fils, par exemple, elle est complice d'un délit.
C'est trop étendu pour vous, ça. C'est trop large.
Ça pourrait l'être. Donc, moi, je préférerais qu'on criminalise le fait, et ça me paraîtrait tout à fait légitime, de partir faire le djihad.
Christiane Taubiras est censée porter cette loi, la défendre, et cette révision constitutionnelle, elle vient d'expliquer que c'était une mesure dérisoire et inutile. Est-ce que vous pensez qu'elle peut rester au gouvernement ?
Alors, d'une manière générale, je suis partisane de la philosophie de Jean-Pierre Chevènement, et je l'ai toujours été.
Un ministre...
Ça ferme sa gueule ou ça démissionne. Et c'est ce que je me suis appliqué à moi-même. Quand j'étais membre du gouvernement, il y a des décisions du gouvernement pour lesquelles auxquelles je n'étais pas favorable. Je pense notamment à la circulaire Guéant et Othmane Nasrou qui est ici, qui était d'ailleurs le leader de l'opposition à la circulaire Guéant, qui est maintenant élu régional républicain des Yvelines, le sait.
Vous avez fermé votre gueule.
J'ai été voir le président de la République, j'ai été voir le Premier ministre, mais j'ai fait part de mon opposition en interne, parce qu'on est une équipe. Et moi, je ne comprends pas cette cacophonie gouvernementale. Je ne la comprends pas, d'autant plus qu'elle finit par être le symbole d'un pays où tout fout le camp. C'est-à-dire que comment voulez-vous aller dire à un lycéen, il faut respecter le professeur, le proviseur, il faut respecter l'ordre et l'autorité, et en même temps avoir une ministre de la Justice qui elle-même ne respecte pas l'autorité de son premier ministre.
Pourquoi elle reste, selon vous ?
Quelles sont ses raisons, finalement ?
Ça, alors là, je ne suis pas dans la tête de Christiane Taubira.
Vous n'avez pas d'avis sur les raisons qui la font rester, malgré le fait que, on sait que Manuel Valls n'aime pas l'incohérence.
Écoutez, en tout cas, moi, aujourd'hui, je ne vois pas d'autre solution pour restaurer l'autorité de ce gouvernement Emmanuel Valls que son départ.
Alors, les Français sont beaucoup plus nuancés que vous, puisque d'après un sondage, 54% ne sont pas gênés qu'elle reste au gouvernement. Comme si finalement, ça n'était pas un enjeu important. Après tout, avoir des convictions différentes, mais rester au gouvernement par fidélité, ça peut... on peut considérer que c'est
pas incompatible. Mais avoir des convictions différentes, c'est possible. Ce qui est impossible, c'est de les exprimer dans une cacophonie gouvernementale absolue. D'ailleurs, je remarque que quand il s'est agi de Delphine Bateau ou d'Arnaud Montebourg, le gouvernement a eu beaucoup moins d'état d'âme à rappeler cette règle de cohérence du travail d'équipe. Donc ce que je crois, c'est qu'en réalité, aujourd'hui, il y a une vraie dérive. Et moi, je le dis, vraiment...
Elle incarne, vous l'avez dit, la France qui fout le camp.
Non, pas elle, son comportement. Son comportement, ce comportement qui consiste à dire il y a un chef d'équipe, on est dans une équipe collégiale, on fixe une ligne et finalement tout le monde a le droit de dire le contraire.
D'autant qu'elle a signé en devenant ministre une charte de déontologie dans laquelle il est dit qu'une fois que l'arbitrage est rendu, aucun ministre ne doit s'exprimer.
Mais vraiment, je vous assure qu'il y a un besoin d'autorité dans la société française. Il y a un besoin d'application de la règle.
Mais François Hollande, s'y est converti, il a lui justement amorcé ce virage sécuritaire. D'ailleurs, à lui, vous dites quoi ? Bravo ? François Hollande tient bon, comme le titre
d'ailleurs. Revenons quand même une dernière fois sur le cas de Mme Taubira. Imaginez-vous dans une vie professionnelle normale, imaginez-vous, directrice politique de la rédaction d'RTL, au bout de combien d'avertissements est-ce que vous sanctionneriez un de vos salariés qui dirait le contraire de ce que vous dites ? Donc je crois qu'à un moment, si on veut mettre en place une politique, il faut suivre une ligne.
Mais donc c'est à François Hollande que vous dites ça, c'est pas tellement sa responsabilité, elle, c'est François Hollande qui devrait s'en séparer.
On voit que Christiane Taubira a, elle, pas du tout la même philosophie que moi du métier de ministre et qu'elle peut signer une charte de déontologie et s'en abstraire. Maintenant, elle a un chef du gouvernement qui s'appelle Manuel Valls, un président de la République. Effectivement, c'est à eux d'en tenir compte.
Pourtant, ce chef, François Hollande, c'est sans doute grâce à vous, grâce à la droite, que la réforme constitutionnelle, potentiellement, va être adoptée. Est-ce que c'est embêtant politiquement ? Est-ce que ça vous enlève les arguments, le fait qu'ils reprennent notamment certaines de vos propositions comme la déchéance ? Est-ce que ça va changer la donne politiquement ?
D'abord, le président de la République est quand même encore très loin de reprendre toutes les propositions de la droite en matière de sécurité. Et j'ajoute que
vous allez probablement voter en tout cas, le groupe, la réforme de la Constitution.
Il y a, il y a eu la loi sur renseignement, l'état d'urgence, la déchéance de nationalité étendue aux binationaux, des milliers de nouveaux postes créés, renforcement des pouvoirs de la justice au détriment du judiciaire. Il a quand même fait beaucoup.
En tout cas, c'est l'honneur d'un politique que de voter une mesure qui lui paraît conforme à ses convictions et d'intérêt général, même si elle est proposée par ses adversaires politiques. De ce point de vue, moi, je n'ai aucun état d'âme. En revanche, ce qui me paraît source de problème dans la façon, dans la méthode du gouvernement vis-à-vis des questions terroristes, c'est le fait qu'on n'a pas de vision globale de la politique du gouvernement. Moi, depuis janvier, je demande une grande loi globale de protection. Là, ce que l'on fait, c'est qu'on assiste à un saucissonnage des mesures qui fait qu'on n'a pas de vision d'ensemble. C'est quand même assez grave, parce qu'en réalité, on finit par se dire « Bon, allez, on va faire une loi, une nouvelle loi sur la sécurité intérieure qui va donner plus de pouvoir aux policiers. Quid de la justice ? Pourquoi est-ce qu'on ne parle pas de la situation aujourd'hui dramatique de nos prisons ? Je vous rappelle que l'assassin de Saint-Quentin Fallavier s'est suicidé il y a quelques semaines dans une quartier de haute sécurité de prison, nous privant d'un procès, nous privant de la possibilité de savoir ce qui s'était passé. Donc je trouve qu'aujourd'hui, le gouvernement fait des coups. Et il va au coup par coup sur des sujets.
Au fil de l'eau, vous diriez ?
Il fait des coups. Et moi, ce que je souhaiterais, c'est que l'opposition soit totalement associée à une réflexion globale d'ensemble. Je pense à la justice qui ne va pas bien. Et il y a une tension épouvantable, on le voit bien, entre la place Beauvau et la place Vendôme. Donc je pense qu'il faut aussi qu'on ait une réflexion sur la justice. Et je pense qu'il faut qu'on ait une autre réflexion sur un sujet dont on ne parle pas, mais qui est au cœur, et en tant que président de région, je le vis tous les jours, au cœur de notre vie collective, c'est la radicalisation. Comment est-ce qu'on fait face aux dangers de la radicalisation dans les entreprises, dans les services publics, dans les établissements scolaires ? Pour moi, ça va être un des grands défis des semaines qui viennent.
Vous avez une mesure à proposer au gouvernement en la matière ?
Eh bien, d'abord, je pense que nous avons besoin, sur ces fichiers S radicalisés, d'avoir un partage d'informations pour pouvoir permettre qu'ils ne soient pas en position de nuire. Et je pense
c'est
à ça parce que
le président de la SNCF, qui était notre invité, nous disait qu'on lui transmettait les fiches S qui pouvaient poser un problème.
Il se passe
et qu'il les éloignait.
Aujourd'hui, il commence à y avoir un partage d'informations, mais j'ai demandé à Bernard Cazeneuve, quand je l'ai rencontré, d'avoir cette information, par exemple, pour tous les salariés du Conseil régional des lycées.
Aujourd'hui, ce n'est pas le cas.
Aujourd'hui, ça n'est pas le cas.
Aujourd'hui, il y aurait des salariés du Conseil régional qui travaillent dans les lycées. Vous ne sauriez pas.
Aujourd'hui, ce travail n'a pas de partage d'informations n'a pas encore été engagé. Et il doit l'être, absolument impérativement. Mais autre sujet qui m'a été posé, parce que moi, vous savez, je ne vais plus me taire. Hein. Je suis présidente d'une région qui est une région complexe, avec des multiples fractures, et je ne me tairai plus. Les entreprises que j'ai vues, par exemple, sur la plateforme de Roissy, m'ont dit qu'elles souhaitaient pouvoir mettre en place des chartes éthiques dans l'entreprise. Or, aujourd'hui, il n'y a pas de base légale pour cela. Et puis, par ailleurs, nous avons un sujet qui, moi, me tracasse profondément, c'est la montée des tensions, enfin, ou des tentations communautaristes et radicales dans les établissements scolaires. Et les proviseurs m'ont alerté. Donc je serai à leur côté.
C'est mesuré ou
non,
vous alertez
oui,
quelques
oui.
poignées ou...
Ah ben, le ministère de l'Éducation nationale a parlé de plusieurs centaines de jeunes collégiens et lycéens qui seraient tentés par un discours plus radical.
Et là, concrètement, une fois qu'on sait, qu'est-ce qu'on fait ?
Ah ben, il faut faire des mesures. D'abord, il faut faire de la prévention. Il faut absolument aller dans les lycées, et il faut que j'en parle avec Najat Vallaud-Belkacem, puisque les lycées sont de la compétence régionale, mais il va falloir mettre des associations dans les lycées, parler avec les jeunes. On sait que l'adolescence est un moment un peu compliqué, où on se cherche son identité. Alors ces discours qui sont tenus, ces refus de faire les minutes de silence, ces pratiques vestimentaires qui commencent à devenir provocantes vis-à-vis de l'institution scolaire, tout ça sont des petits signaux.
Najat Vallaud-Belkacem, qui sera notre invitée demain sur RTL à 8h.
Ce sont des petits signaux.
Faisons
signaux d'alarme qui, accumulés, montrent un tableau préoccupant. Et la région sera aux côtés des chefs d'établissement pour les aider à faire face.
Vous parliez aussi des transports. Vous êtes présidente du syndicat des transports d'Île-de-France maintenant, en tant que présidente de la région. Est-ce que, en matière de sécurité, au-delà de la radicalisation dont vous parliez, est-ce qu'il y a des choses à faire ? Est-ce qu'à un moment, votre thème de campagne, c'est la police des transports ? Est-ce qu'on avance sur
bouclier
ce sujet-là ?
Bouclier sécurité, vous aviez promis pendant
oui,
la campagne.
Oui, alors j'en ai parlé avec le Premier ministre. J'ai vu le Premier ministre jeudi et je lui ai parlé de trois sujets. L'emploi, bien évidemment, mais avant l'emploi, une impasse financière de 300 millions d'euros, une ardoise qui m'a été léguée par mon prédécesseur socialiste.
À cause du prêt unique sur le pass Navigo, c'est
voilà, ça Navigo. Avec la complicité du Premier ministre qui a soutenu cette mesure et du candidat socialiste Claude Barthelone qui l'a défendu dans sa campagne.
Donc vous lui demandez
le
quoi
le pass Navigo unique, c'est un projet politique qui est intéressant. C'est l'idée de dire, quand on est en très grande couronne, loin de Paris, on payait beaucoup plus cher pour des transports qui étaient bien moins bons que les transports des Parisiens. Le problème, c'est que le prix a été fixé à 70 euros pour des raisons électorales, pour faire gagner la gauche aux élections, et qu'il manque 300 millions d'euros pour le financer.
Vous n'allez pas revenir dessus, le prix unique, maintenant?
Bien entendu que non. Je ne vais pas jouer au yo-yo avec le pouvoir d'achat des Franciliens. Je veux sauver le pass unique, mais je ne veux pas augmenter les impôts. Parce que ça, c'est une promesse de campagne.
Vous faites des économies.
Donc, j'ai demandé à Manuel Valls, excusez-moi, c'est pas à moi de faire des économies, c'est à ceux qui ont défendu une mesure qui était électoraliste et pas financée. Ça s'appelle la politique à l'ancienne. Et ça, c'est pas à moi d'en supporter les conséquences. C'est pas au Conseil régional. Pourquoi ?
Parce que le
Conseil
régional... Donc, c'est à tous les Français travers l'État.
Je vais vous expliquer... J'ai un projet. Le problème du Conseil régional, c'est que si c'est le Conseil régional qui le supporte, moi j'ai toutes les notes de mes services, ça veut dire qu'il faut couper dans les crédits de la formation professionnelle et dans les crédits de l'investissement, qui sont aujourd'hui, on le sait bien, les leviers de la relance de la croissance en Île-de-France. Donc ça n'est pas possible. En revanche, il faut trouver un plan de financement. J'ai proposé à Manuel Valls, parce que le règlement de cette impasse est un préalable indispensable à toute discussion entre la région Île-de-France et l'État.
Ah, vous n'aiderez pas l'État en quoi que ce soit, notamment formation, apprentissage,
etc. Mais je n'ai pas l'argent, Madame Martichoux.
Tant que vous n'avez pas eu l'engagement de l'État à compenser une partie des 300 millions.
Aujourd'hui, j'ai à ma charge 300 millions d'euros de crédit que je ne peux trouver qu'en coupant la formation professionnelle et les investissements.
Donc qui va payer le pass francilien des Franciliens ?
J'ai proposé des pistes. Dès 2016. La première de ces pistes, c'est la lutte contre la fraude dans les transports. Nous avons aujourd'hui une fraude qui a atteint des niveaux inacceptables. En plus, c'est un vrai problème, de justice pour ceux qui payent. Nous avons des taux de fraude sur certaines lignes en Île-de-France de plus de 40%.
Donc ça peut vous permettre de faire beaucoup d'économies ?
Le coût estimé de la fraude est de plusieurs centaines de millions d'euros et ce que l'on me dit, c'est qu'il est actuellement très sous-estimé. Donc je pense qu'on pourrait faire...
En particulier en Seine-Saint-Denis, la fraude, dans les bus par exemple, mais pas...
Dans les bus, d'une manière générale, dans les bus et les tramways, parce que c'est les transports de surface qui sont très peu sécurisés, j'y reviendrai, puisque c'est l'objet de la police des transports que je veux mettre en place, dans les bus et les tramways. Et dans certains départements qui sont
plus frappés. Là, il y a un peu d'argent à récupérer, mais du coup...
Il y a 150 millions d'euros à récupérer.
Et là, on fait comment ? On va mettre plus de gens pour contrôler ?
Je vais y venir. Des portillons ?
Et la deuxième mesure pour financer le pass Navigo que je souhaite, c'est la suppression de la tarification, baisse des transports de 75% pour les étrangers en situation irrégulière et leurs familles. On ne peut pas avoir une réduction de 75% pour des étrangers en situation irrégulière.
Vous enlevez les 75% de réduction.
Quand on est étranger...
Ce sont des personnes qui, en général, ne peuvent pas s'offrir le pass Navigo à 70 euros, de la même façon que les Français qui touchent
mais
le RSA.
Ils ne peuvent pas non plus s'offrir une télévision. Est-ce que c'est notre rôle de leur offrir une télévision ? Aujourd'hui, le sujet, c'est qu'il y a des mesures humanitaires, l'aide médicale d'État. Moi, je suis favorable à cette aide médicale d'État dès lors qu'elle va sur un panier de soins qui est raisonnable, qui ne sont pas des soins de confort, mais qui sont des soins de santé. Donc, il y a l'aide médicale, il y a la gratuité des cantines, il y a la gratuité de l'école pour les enfants des étrangers en situation irrégulière. Tout ça, c'est la vocation universelle de la France, c'est humanitaire. Donner des transports gratuits à des étrangers en situation irrégulière, c'est en réalité acter le fait qu'ils vont aller travailler. C'est donc acter le fait qu'ils vont rester sur le sol français. C'est donc être en totale contradiction avec les propos virils du Premier ministre qui dit qu'ils ont vocation à rentrer.
Ça représente combien,
Et j'ajoute que rien ne les empêchera de payer leur ticket, Madame Martichoux. Rien ne les empêchera.
Ça représente
50 millions.
C'est sûr, ça, parce que c'était controversé.
50 millions, ce sont les chiffres du syndicat des transports d'Île-de-France.
150 millions sur fraude et 50 millions...
Pardon, 50 millions d'euros de manque à gagner pour les opérateurs.
On en est à 200.
Au minimum.
Là, on en est à 200.
On en est à 200, il manque encore une centaines de millions d'euros.
Et ça, vous les demandez à Manuel Valls ?
Ça, je les demande à Manuel Valls et j'ai une petite idée. Vous savez qu'il y a une société du Grand Paris qui a des recettes fiscales, mais dont les dépenses n'ont pas encore atteint leur pleine puissance. Donc je pense qu'à titre exceptionnel, nous pourrions avoir un prélèvement sur les ressources de la société du Grand Paris.
Sauf que là, ce n'est pas des dépenses exceptionnelles, ce sont des dépenses pérennes. C'est tous les ans qu'il va manquer 100 millions d'euros.
Vous êtes très observateur, Monsieur Brézé. Je vous remercie de me poser la question. À partir de 2017, il faut que nous ayons un transfert de ressources fiscales pérenne, mais il se trouve que c'est une négociation que nous aurons avec le gouvernement. Je crois que s'il veut que la région remplisse pleinement ses missions en matière d'emploi, en matière d'économie, et il y a beaucoup à faire en Ile-de-France, on est les derniers de la classe.
Et vous êtes prêts à jouer le jeu si...
Il faut un transfert de ressources d'État.
Alors, est-ce que Manuel Valls vous a dit... s'est engagé à quoi ?
Manuel Valls a dit qu'il était très ouvert sur toutes ses perspectives et que nous nous revoyons dès cette semaine.
Donc il ne vous a rien dit de précis pour l'instant ?
Il a dit qu'il reconnaissait l'existence de cette ardoise de 300 millions que la région n'avait pas à payer. Pour moi, c'est déjà un pas énorme. Mais, je tiens à vous le dire, moi, c'est un préalable indispensable. Je souhaite un accord politique ferme sur le financement du Pass Navigo avant la fin du mois de janvier.
Avant la fin du mois de janvier.
Un accord politique ferme.
Vous dites un préalable, ça veut dire que derrière, il y aura un acte 2, c'est-à-dire qu'en échange, vous êtes prêt à entrer dans une négociation avec le gouvernement, par exemple, sur la formation ou sur l'emploi.
Oui, alors je souhaite faire bien davantage sur la formation et l'emploi. L'Île-de-France est malheureusement...
Parce qu'il reste juste une minute.
L'Île-de-France est malheureusement dernière de la classe en France sur les dépenses de développement économique et avant-dernière sur l'apprentissage. Ça n'est pas possible. Nous avons 700 000 chômeurs. Il faut absolument faire quelque chose. Je suis prête à faire bien davantage. Mais là aussi, c'est une question de moyens. Je vais faire des économies sur les gaspillages que j'ai constatés sur le fonctionnement de la région et de ses organismes associés. Mais je dois d'abord sécuriser le financement du pass unique.
Voilà, on y revient sur à la fois les économies, le déménagement et puis toutes les questions politiques évidemment relatives à votre famille chez les Républicains. On y revient dans un instant pour la deuxième partie du Grand Jury RTL Le Figaro LCI avec Valérie Pécresse, présidente d'Île-de-France. A tout de suite.
Suite du Grand Jury, RTL, Le Figaro LCI. Invité aujourd'hui, Valérie Pécresse, présidente de la région Île-de-France. Le débat est dirigé par Elisabeth Martichoux.
Avec Alexis Brézet du Figaro et Christophe Jacubizine de TF1 et LCI. Valérie Pécresse, on est passé tout à l'heure un peu trop vite sans doute sur les mesures que vous souhaitez voir mises en place pour lutter contre la fraude dans les transports. Vous avez dit que dans les bus notamment, il fallait davantage de contrôle. Qu'est-ce que serait la première mesure
Alors, au-delà même de la fraude, nous avons été endeuillés par des actes terroristes et nous savons que l'une des cibles potentielles des terroristes, et on a de multiples exemples, y compris à Paris, ça peut être le réseau de transport. Donc nous avons besoin de renforcer la sécurité dans les transports. La sécurité terroriste, la sécurité quotidienne, et puis cette lutte contre la fraude dont je veux faire vraiment un marqueur de ma présidence de région. Donc pour cela, je crois qu'il faut créer une police régionale des transports. Une police régionale qui aurait compétence non seulement sur le réseau de métro, qui est relativement bien sécurisé, celui de la SNCF, mais aussi celui des bus et des tramways, des transports de surface. Et j'en ai parlé à Manuel Valls.
Pour ça, il faut une loi, parce qu'aujourd'hui, on peut pas le faire comme sans changer la loi.
Pour ça, il faudrait sans doute une loi, mais avant même la loi, il faudrait voir concrètement comment on peut mutualiser l'action des différents services. Et est-ce qu'on inclut dedans la police nationale des transports, c'est-à-dire un service de la police judiciaire qui s'occupe aujourd'hui de tout ce qui est pénal dans les transports.
Moi, j'y suis favorable. La SNCF a déjà une police qui lui est propre.
Il y a au ministère de l'Intérieur une police des transports qui s'occupe de toutes les plaintes pénales, mais qui est sur le réseau. Et puis, il y a des forces de sécurité à la SNCF,
et des forces agents de la
SUGE, et une force de sécurité qui s'appelle le GPSR, qui est à la RATP. Mais vous n'avez rien sur le réseau de bus. Et j'ajoute que ces forces de sécurité SNCF et RATP ont très peu de pouvoir et pourraient en avoir davantage.
Ils vont être armés à la SNCF.
Ils sont armés, mais ils ont très peu de pouvoir. Par exemple, le pouvoir de fouiller les sacs ou le pouvoir de contrôler les identités, ils ne l'avaient pas.
Ils l'ont, désormais.
La loi Savary qui a été déposée à la suite, justement, des cris d'alarme que j'avais poussés sur ces questions, va être réexaminée au Sénat à la fin janvier. Moi, je souhaite, je vais en discuter avec le Premier ministre, que dans cette loi Savary, nous puissions intégrer cette police régionale des transports que je veux créer.
Il vous a dit d'accord ?
Il m'a dit que nous allions en parler dès cette semaine avec le préfet de police de Paris.
Cette police régionale, il s'agit de regrouper des services qui existent déjà ou de créer quelque chose de neuf qui serait financé par la région ?
Par définition, si vous créez quelque chose, enfin, si vous regroupez tout, vous créez quelque chose de neuf.
Est-ce que vous allez recruter des personnels supplémentaires ?
Qui seraient des agents de la région.
Voilà.
Non, c'est une police régionale, à compétence régionale des transports. La question, c'est de savoir si elle sera sous compétence du syndicat des transports ou bien sous compétence de l'État. Je crois avoir compris des discussions avec le Premier ministre que lui préférerait que l'État garde la main sur une police régionale des transports. Ce qui ne me dérange absolument pas. Moi, ce que je veux, c'est vraiment qu'on puisse avoir une continuité de la sécurité. Parce que vous comprenez, quand vous arrivez dans une gare routière de petite ou de grande couronne, quand vous vous retrouvez dans le bus de Sevran, de Transdev, dans lequel qu'une bande a pris en otage il y a quelques semaines, vous vous dites pourquoi cette inégalité de sécurité ?
Mais pourquoi ça consisterait en combien de personnes ? Il faudrait combien de personnes ?
L'idée, il y a déjà plusieurs milliers de personnes à la SNCF et à la RATP. Ouais. Il y a aussi tous les agents de la police des transports du ministère de l'Intérieur. Moi, je crois qu'il serait raisonnable, si on veut étendre le réseau à tous les bus, de mettre 250 personnes de plus sur le réseau. Moi, c'est mon évaluation. Maintenant, ça va faire l'objet d'une discussion.
Vous voulez, dès 2016, ça aussi, ça fait partie des préalables ?
C'est pas un préalable, mais c'est vraiment une réforme
c'est
que
une
je souhaite voir
2016.
Mettre en œuvre.
Une
priorité.
Emmanuel Valls vous a semblé d'accord ?
Il m'a semblé
y compris pour le financer, parce
extrêmement
que...
ouvert sur cette question, sur le financement. Nous en reparlerons. Moi, je suis prête, si cette police voyait le jour, à ce que le syndicat des transports puisse y contribuer.
Alors, on parlait de recrutement, on va parler emploi, Christophe Jacubizine.
Oui, vous disiez tout à l'heure, en fin de première partie, qu'une fois qu'un certain nombre de conditions seraient remplies, c'est-à-dire que notamment sur le Pax Navigo, vous ayez vos financements, vous étiez prêt à un dialogue constructif avec le gouvernement en matière de formation et d'emploi. On sait que dans certaines régions, je pense par exemple au Nord-Pas-de-Calais-Picardie, Xavier Bertrand est prêt à un deal, si je puis dire, avec l'État, un transfert de compétences. On n'a pas très bien compris d'ailleurs jusqu'où ça pourrait aller. Est-ce que vous aussi, vous êtes dans cette démarche, vous considérez que la région Île-de-France doit faire davantage en matière de formation et est-ce que vous allez contribuer au plan massif de formation des chômeurs annoncé par François Hollande ?
Alors, la réponse c'est oui, et la réponse c'est oui, mais bien avant la proposition de François Hollande, puisque dès l'examen de la nouvelle loi sur les compétences des régions, la loi NOTRe, c'est-à-dire il y a quelques mois, dans l'hémicycle à l'Assemblée nationale, j'avais réclamé plus de compétences pour les régions. Parce qu'en fait, on est resté un petit peu au milieu du guet. On a transféré aux régions une compétence pleine sur l'apprentissage. On leur a transféré une partie de la compétence formation professionnelle, mais l'État ne peut pas s'empêcher de toujours garder des compétences.
Par exemple,
pour
Pôle emploi, est-ce que ça pourrait devenir régional ?
Par exemple, Pôle emploi. Comment voulez-vous résoudre la question du chômage si vous n'avez pas les fichiers des demandeurs d'emploi ? C'est-à-dire que si vous ne connaissez pas le profil des personnes que vous avez à former et que vous avez à employer.
Et dans le cadre d'une expérimentation, c'est possible que
non.
Vous preniez
aujourd'hui,
le pouvoir sur Pôle emploi ?
Aujourd'hui, malgré un amendement que M. Rousset, le président d'Aquitaine Socialiste, et moi-même, nous avions déposé, ça n'a pas été voté dans le cadre de la loi NOTRe. Donc ça veut dire qu'il faudrait aller plus loin que la loi.
Donc c'est du vent qu'est-ce qu'on nous raconte sur la formation, sur les régions ?
Non, la région peut faire davantage dès aujourd'hui. Je vais vous donner un exemple sur l'apprentissage. La région peut faire encore davantage, mais c'est vrai qu'il faudra faire lever des blocages, qui sont souvent des blocages législatifs ou des blocages administratifs. Prenons l'exemple de l'apprentissage. L'apprentissage, vous savez, on paye des places. Moi, je sais, pour en avoir discuté avec le président de la Chambre des métiers de Seine-Saint-Denis, qu'il y a 1500 places en apprentissage dans le campus des métiers de Bobigny qui sont vides. Elles sont payées, mais elles sont vides parce que les classes ne sont pas pleines, parce que les jeunes ne sont pas suffisamment, j'allais dire, séduits par ces métiers ou parce qu'on ne sait pas aller les chercher, parce qu'il y a une image de l'apprentissage à rénover. Donc moi, ce que je souhaiterais, c'est qu'on gomme cette barrière des 25 ans qui empêche un salarié en reconversion de venir faire une formation d'apprentissage. Je veux qu'il n'y ait plus de barrière d'âge. Je veux qu'il n'y ait plus de barrière d'âge.
On essaie, madame Martichoux, à 45 ans.
Mais bien entendu. Vous savez qu'aujourd'hui, si vous êtes chômeur senior, si vous avez plus de 45 ans, eh bien, vous allez à Pôle emploi, on ne vous propose plus aucune formation. Alors, on vous dit, il n'y a plus rien pour vous. Et vous avez 20 ans.
Donc vous proposez un apprentissage pour seniors, si
voilà,
je comprends bien.
Voilà, c'est une proposition que nous avons travaillée avec mes amis de l'UDI, et notamment avec Chantal Joanneau, qui tenait énormément. Nous souhaitons aujourd'hui que toutes ces barrières qui font qu'on ne rentre jamais dans la bonne case, les places sont payées. C'est des métiers où il y a des débouchés, des métiers de bouche, des métiers de l'esthétique.
On pourrait envie d'être boulanger, par exemple, à 45 ans et aller au centre de formation des apprentis.
Mais vous imaginez, vous êtes, mais en plus, ça correspond à des vocations qui peuvent être tardives. Mmh. On peut se rendre compte que des métiers sont passionnants. Là, j'ai avec moi Babette de Rosière, que j'ai voulu mettre sur ma liste, justement, pour qu'elle aille raconter à ces jeunes que les métiers de la restauration sont des métiers extraordinaires, que nous avons vrai potentiel de création d'emplois dans les métiers liés au tourisme, liés à l'accueil des étrangers. Et on cherche 100 000
emplois. Donc faire 100 000 emplois.
sont non pourvus en Île-de-France, fausse de salariés qualifiés.
Le gouvernement lui a promis 500 000 nouvelles formations pour des chômeurs. Sur le fond, vous pensez quoi de cette mesure à laquelle la région serait appelée, évidemment, à participer, à financer. Juste parce qu'un certain nombre de gens à droite, c'est-à-dire pas qu'à droite, disent tout ça, c'est une astuce, c'est pour enlever les chômeurs de catégorie A, les mettre en catégorie C, c'est pour faire baisser les statistiques. Est-ce que vous vous dites que c'est une astuce ou bien c'est une vraie mesure qui permet de réduire le chômage ?
Non, mais dit comme ça, ça ressemble à un énième plan, effectivement, de réponse sociale au chômage.
Traitement social du chômage.
De traitement social du chômage. Dit comme ça, ça n'a pas de sens. Mais, vu au niveau d'une région, c'est-à-dire d'un exécutif local qui peut mettre en relation des entreprises, des centres de formation et des personnes demandeuses d'emploi, ça peut prendre du sens. À condition que vraiment on réévalue l'ensemble du dispositif. Moi, dès février, je veux organiser en Île-de-France une conférence régionale pour l'emploi, je veux mettre à mes côtés un conseil des chefs d'entreprise et je veux qu'on réfléchisse sur les métiers dans lesquels il n'y a pas de formation. Je pense aux métiers du numérique. Vous savez bien que Xavier Niel a été obligé avec un certain nombre de ses amis de créer
de faire une école
le
42,
de faire
Paris,
une école. Ouais. C'est la région qui est responsable de la formation professionnelle. Comment se fait-il que cette région ne soit pas née de l'action régionale ?
De cette école.
Et,
oui.
Voilà. Et c'est pareil sur un certain nombre de métiers liés à la croissance verte, liés à la transition énergétique. On nous demande aujourd'hui de faire des bâtiments qui soient, j'allais dire, économes en énergie.
Donc au fond, il
on
faut créer les formations. Voilà. La bataille, c'est de créer les formations.
C'est de mettre en relation l'offre d'emploi, les emplois de demain, avec les formations nécessaires et avec aussi les demandeurs d'emploi. C'est-à-dire qu'il faut aller très vite, proposer des formations. Parce qu'on sait bien qu'un demandeur d'emploi, eh bien, c'est dans les 6 premiers mois qu'il a la meilleure capacité à rebondir.
Et là, la région a les moyens pour ça, financièrement ?
Si on lui donne vraiment un droit de regard, enfin, ou en tout cas une information sur Pôle emploi, et si on lui donne une vraie compétence développement économique, formation cohérente, oui, les régions peuvent faire des choses astucieuses. C'est ce qui se passe en Allemagne.
Ça fait tellement longtemps qu'on dit qu'on va effectivement renouveler les filières d'apprentissage, faire de la formation.
Bien sûr.
Vous dites les deux préalables, c'est ça.
Mais oui, mais j'allais dire, le diable est dans les détails. J'ai reçu tous les présidents de CFA pendant la campagne, les directeurs de CFA.
Centre de formation des apprentis.
Qu'est-ce qu'ils m'ont dit ? Ils m'ont dit, est-ce que vous savez, Madame Pécresse, que quand on reçoit de l'argent de la région, si on a 5 entreprises qui veulent prendre 5 stagiaires de plus dans une classe, on n'a pas le droit de déplacer l'argent d'une filière vers une autre. Donc on n'a aucune fongibilité des crédits dans le jargon, ça veut dire on n'a aucune souplesse. Est-ce que vous ne voulez pas nous faire confiance ? Est-ce que vous ne voulez pas qu'on assouplisse tout ça ? Donc je crois qu'il y a vraiment, vraiment à travailler sur le fond avec Jérôme Chartier, mon vice-président en charge de l'économie qui est juste derrière vous. Oui mais vous savez, j'ai voulu faire...
C'est important d'être en équipe, on a compris.
Ah mais c'est un collectif,
vous savez.
Et alors
vous allez faire déménager votre collectif, ça aussi vous l'aviez dit dans votre campagne.
Oui.
Alors le déménagement, vous allez le faire ?
Alors le déménagement, il est très symbolique de plusieurs choses. D'abord notre volonté d'en finir avec les fractures qui minent l'Île-de-France. Parce que c'est la région de toutes les richesses, mais c'est la région de toutes les inégalités. Donc nous allons franchir le périphérique. Parce que Paris est un formidable atout.
Aujourd'hui, les différents
mais la région,
de la
ça n'est pas que Paris.
Sont dans le 7e arrondissement, pour les gens qui nous écoutent.
Alors, aujourd'hui, oh là là, nous avons un enchevêtrement. D'abord, nous avons 10 localisations de la région dans le cœur de Paris, dont 7 hôtels particuliers, n'est-ce pas, dans le 7e arrondissement.
Sont peut-être là les ressources qui vous manquent. Bah,
oui, mais on va les utiliser. Mais vous savez, ce n'est pas du jour au lendemain, hein, M. Jacubizine, qu'on organise la vente d'un hôtel particulier, surtout dans le cœur historique de Paris. Ensuite, vous avez les organismes associés. 31 organismes, dont 16 créés par la gauche. Alors, inutile de vous dire qu'on va faire un audit que je viens de lancer,
par exemple,
du fonctionnement de tous ces organismes associés.
Qui serait inutile.
Oh, bah, je vais vous donner un exemple. Nous avons une agence des espaces verts, qui est un établissement public d'État, et nous avons créé un organisme associé qui s'appelle Nature Parif, pour observer la biodiversité. Il me semble pas illégitime de penser que la biodiversité pourrait être observée par l'Agence des espaces verts et qu'on pourrait fusionner les deux. Ça n'est qu'un des exemples. Si vous me lâchez sur ce sujet, vous avez l'émission entière qui sera consacrée. Mais je rendrai public l'audit. Donc il faut faire des économies, il faut déménager. Ce déménagement n'est pas là que pour des raisons d'économie financière, parce qu'il faut aussi rendre l'argent aux franciliens. Nous avons 26 millions d'euros de loyer.
Vous êtes sûr que ça fait économiser, hein, parce qu'un déménagement, ça coûte très cher.
Ah, mais attendez. Nous avons un patrimoine de 250 millions d'euros dont nous sommes propriétaires. Et nous avons en plus 26 millions d'euros de loyer dans des immeubles extraordinaires. On était Tour Montparnasse, on était dans l'immeuble Louis Vuitton du Bon Marché. Donc, nous sommes. Donc, le sujet, c'est qu'aujourd'hui, ça nous fera faire des économies. Mais ce n'est pas seulement ça, le déménagement. Le déménagement, c'est un projet collectif pour le Conseil régional qui sera la vitrine de ce que nous voulons être, c'est-à-dire une administration numérique, c'est-à-dire une administration qui accueille les usagers. Est-ce que Madame Martiou, vous avez essayé un jour de joindre le Conseil régional pour régler un de vos problèmes?
Ça a dû m'arriver.
Bah non. Donc voilà. Donc il faut qu'on.
Donc vous allez regrouper tout le monde où?
Alors tout le monde, dont les élus. Les élus partent avec les services. Il n'est pas évidemment pas question de
qui reste dans le 7e arrondissement. Non.
Personne. Personne
ne restera rien dans le 7e arrondissement.
Nous allons en banlieue tous ensemble et. Évidemment, mon choix de cœur serait
Est-ce que tout le monde est d'accord? Est-ce que tous les élus sont d'accord pour aller
Ils ont signé. Mais vous savez, on ne peut pas à la fois dire qu'on veut faire le rééquilibrage à l'Est, on ne peut pas à la fois dire qu'on veut ancrer la réalité de la région dans les quartiers populaires et ne pas y aller, qu'on veut reconstruire.
Alors, où les quartiers populaires?
Seine-Saint-Denis, Val-de-Marne, vraisemblablement, et dans un lieu, parce que j'ai entendu les demandes des agents que j'ai reçues évidemment dès que j'ai été élue, et nous allons lancer une grande concertation pour les associer à ce déménagement, dans un lieu qui sera très bien desservi par les transports.
Il s'agit de construire quelque chose ou d'acheter un bâtiment existant?
Écoutez, toutes les possibilités sont ouvertes. L'essentiel, c'est que ce soit économe. L'essentiel, c'est que ça reflète notre projet pour la région. Et l'essentiel aussi, c'est qu'à la fin, on puisse décloisonner les services de la région.
Et quand?
Alors, nous voterons.
Sera acté.
Nous voterons le 20 janvier, donc à la prochaine séance, le principe de ce déménagement. Moi, mon objectif, c'est que ce déménagement puisse se faire dans la première moitié de ma mandature. Voilà, parce
première
que ça ne,
moitié,
se, fait pas, ça ne se fait pas en un jour. On a des beaux
mais
à dénoncer.
Mais voter dès le 20 janvier, ce sera soumis.
Voter dès le 20 janvier, et Thierry Meignen est chargé d'aller nous faire le repérage de tous les lieux
possibles. On le salue. Christophe Jacubizine.
Comment, depuis votre nouvelle fonction de présidente de région, vous observez maintenant les débats qui ont lieu au sein de votre camp, au sein des Républicains? Si je vous pose la question, c'est parce que pour beaucoup de Français, on a l'impression que finalement, il y a toute une génération dont vous faites partie, Laurent Wauquiez, Xavier Bertrand, qui sont partis sur leur Aventin et qui laissent finalement le parti se débrouiller avec ceux d'avant. Et les Français, ce qu'ils redoutent, c'est qu'en 2017, on est les mêmes. C'est-à-dire qu'on est François Hollande, Nicolas Sarkozy, Marine Le Pen, Jean-Luc Mélenchon. Est-ce que vous dites, rendez-vous en 2022 et débrouillez-vous en 2017?
Moi, j'ai pris l'engagement de ne pas me présenter à cette primaire parce que j'ai pris l'engagement de rester au service des Franciliens pendant les 6 prochaines années où ils m'ont élu. Et je viens effectivement avec une équipe qui est profondément renouvelée parce qu'il y a une vraie aspiration au renouvellement et des pratiques.
Vous lavez les mains de ce qui va se passer dans votre parti pour 2017?
Mais absolument pas, monsieur Jacubizine. Loin de moi cette idée, au contraire. Mais ce que je pense deux choses. Je pense d'abord que les régions peuvent être le lieu, la fabrique des nouvelles pratique et le lieu de la politique par la preuve. Donc ça peut montrer ce que la droite peut faire si elle est aux manettes en termes de réforme et en termes de rétablissement de l'autorité de la loi et des principes républicains. Donc vraiment, je pense que les régions peuvent être la vitrine de ce que la droite peut faire. Et puis par ailleurs, j'entends peser sur le programme. Et évidemment, moi je me prononcerai pour la primaire à l'automne.
Vous êtes toujours Fillon,
Fillon? Non, moi je suis, comme vous le savez, affectivement et intellectuellement très proche de François Fillon.
Alors
je pense que
son diagnostic
est le bon.
Qu'est-ce qui permettrait aujourd'hui à François Fillon de reprendre de la force dans les sondages? Qu'est-ce qui, à votre avis, pourrait fonctionner compte tenu du fait qu'aujourd'hui ça n'est
moi
pas
je crois
le cas.
Que son diagnostic est le bon et ses propositions rejoignent très largement ma conviction qu'il faut profondément réformer la France. Alors ça c'est ce que je pense, mais là encore je le dis, je ne me prononcerai sur cette primaire que à l'automne et j'entends porter un certain nombre de sujets au vu de mon expérience de président de région.
On vous sent prendre une petite distance, vous dites ces idées, elles sont intéressantes, c'est les miennes, mais finalement, on a envie de vous dire, et l'homme, est-ce qu'il est toujours...
Est-ce que ça peut encore prendre?
Non, Christophe, j'ai toujours dit, ça fait un an que je le dis, que je ne me prononcerai à la primaire que le moment venu.
Non, mais ma
question,
c'est pas ça, c'est qu'est-ce qui peut faire encore prendre la mayonnaise Fillon, si vous me passez l'expression?
Je crois que c'est la qualité...
Est-ce que c'est encore possible?
Moi, je crois que c'est la qualité de l'homme et la qualité de son projet. Mais là encore, on attend...
Pour l'instant, il ne fédère pas énormément de...
Écoutez, son livre
a beaucoup marché, mais dans les sondages, il est très bas.
Un très beau succès. Vous savez, la primaire, c'est encore des mois et des mois. Moi, je ne vais pas commencer à faire des commentaires sur les uns et les autres.
Non, mais sur les projets, sur le programme, puisque vous parlez de programme et projet, Alain Juppé vient de rendre publique la partie de son programme concernant la sécurité, le régalien, l'autorité de l'État. Les observateurs ont dit qu'il se déplace plutôt vers la droite. Qu'est-ce que vous en pensez de ça?
Dans le livre d'Alain Juppé, il y a toute une série de propositions que je partage et qui sont les miennes depuis longtemps. Notamment, par exemple, la question de la suppression des allocations familiales pour les parents d'enfants qui refusent d'aller à l'école. C'est une proposition de loi d'Éric Ciotti que j'avais co-signée à l'époque. Donc il y a énormément de sujets dans le livre d'Alain qui sont des sujets sur lesquels, en tout cas, moi, je me suis déjà personnellement engagée. Donc je suis satisfaite. Nous sommes tous pour un État fort, mais je suis aussi, moi, pour une deuxième étape de la décentralisation avec des compétences extrêmement claires pour les régions qui nous permettraient d'agir efficacement. J'attends aujourd'hui.
Aujourd'hui, il n'y a pas un candidat qui en parle.
Non, pour l'instant, aujourd'hui, il n'y a aucun candidat à la primaire qui ait pris clairement position sur quelles seront la place des futures régions dans l'architecture du pouvoir et surtout dans la réforme de l'État.
J'ajoute... Vous pensez que ça sera un critère des actuels présidents de région pour se prononcer dans la primaire? Ils regarderont parmi les candidats celui qui donne le plus de pouvoir aux régions?
C'est un peu... Non. Moi, je pense qu'il y aura trois... pour moi, il y a trois sujets. Il y a l'esprit de réforme. Est-ce qu'on va aller jusqu'au bout de ces réformes et arrêter les réformettes qui ne marchent pas? Il y a la question de l'autorité. Est-ce que le candidat arrivera à trouver, dans un républicanisme intransigeant et qui refuse tous les communautarismes, des solutions qui sont des solutions de rétablissement de l'autorité de l'État. Et puis enfin, il y a un vrai sujet qui est celui de la simplification. De la simplification à tous les étages. Et c'est pour ça que je pense que les régions doivent être, on doit leur donner davantage de pouvoir et on doit aussi globalement simplifier l'architecture territoriale qui est source de telle complexité qu'elle nuit à l'emploi.
On entend des voix chez les Républicains, Gérald Darmanin encore ce matin dans le journal Le Parisien, qui estime que Nicolas Sarkozy est trop sur une ligne identitaire et il le lui reproche. Il dit la magie de 2007 n'opère plus et je ne suis pas d'accord pour qu'on reste uniquement sur ces sujets dans le programme avant les primaires. Vous partagez cette préoccupation ?
Mais moi je crois qu'il faut rendre hommage à Nicolas Sarkozy pour avoir remis en ordre le parti Les Républicains. Et ça a été très important pour nous dans les campagnes régionales. Donc ça, c'est une très bonne chose. Maintenant, il y a la question de sa candidature à la présidentielle et de sa nouvelle rencontre avec les Français. De ce point de vue, moi je crois que les Français attendent de lui un inventaire. Il y a beaucoup de Français qui ont été déçus par le résultat final de notre mandat 2007-2012, alors même que nous avions fait beaucoup de choses. Donc c'est à la fois injuste et en même temps, le Français n'a jamais tort. S'il ressent qu'il a manqué des choses, que nous n'avons pas été jusqu'au bout des réformes, c'est aussi qu'il y a un fondement à tout cela. Donc je pense qu'il faut attendre le projet de Nicolas Sarkozy et que son grand défi, c'est ça, c'est de retrouver
cette confiance. Mais avant le projet, donc, un inventaire. Je n'ai pas tout réussi, c'est ça que vous voulez dire?
Oui, et d'ailleurs, dès 2013, je l'ai dit, puisque je suis à l'heure actuelle la seule, ancienne ministre du gouvernement Sarkozy qui a écrit un livre pour faire l'inventaire des années de ce qu'on avait réussi ou pas. Parce que les Français doivent comprendre pourquoi certaines choses ont échoué. Et s'ils ne le comprennent pas, ils ne nous feront pas confiance.
C'est à cette condition que la magie dont parle Gérald Darmanin réopérera. Parce que pour l'instant... Vous êtes d'accord avec son diagnostic?
Moi, ce que je crois, c'est qu'il y a eu un certain nombre de Français qui ont été déçus par le bilan de notre quinquennat et que pour les reconquérir, et c'est un défi qui se pose à Nicolas Sarkozy, pour les reconquérir, ça passe par une case indispensable qui est la case inventaire.
Benoît Galeret nous rejoint de RTL et LCI. Valérie Pécresse.
Bonjour.
Il a regardé les réseaux sociaux pendant que vous parliez depuis le début de l'émission. Et alors,
en effet.
Benoît.
Et alors, déjà, face de bouc, salut votre maîtrise des dossiers, votre détermination, si bien que Jean-Pierre se demande même, vous entendant parler d'autorité de l'État, de Christiane Taubira, si vous, maintenant que vous vous dites libéré du parti, vous voyez un destin national.
Ce que je crois, c'est que la présidente de la première région de France ne peut pas avoir sa liberté de parole bridée. Et moi, je l'ai dit à mes électeurs, quand je les ai rencontrés pendant toute la campagne, je leur ai dit, bien sûr, je vais exercer à plein toutes les missions de la région. Mais si vous m'élisez présidente de région, vous me donnez aussi un porte-voix. un porte-voix pour porter votre voix.
Et est-ce qu'en 2017, vous ne serez disponible pour aucun autre mandat, y compris ministériel,
voire premier ministériel ? Vous aviez dit, je ne serai pas ministre. Voilà.
J'ai dit que je
premier
ne serai pas... J'ai dit que je... Écoutez, je...
Alors, ministre, d'abord.
Non, non, mais attendez. On n'est pas au concours l'épine des bonnes idées. Aujourd'hui, mon sujet, il est simple.
Donc, c'est une bonne idée, en tout cas.
Non. J'ai dit que la région était aujourd'hui mon engagement, et c'est mon engagement.
Et demain, jusqu'en la prochaine élection ?
Voilà, on verra ça.
Plus concret, vous parlez sécurité dans les transports, 250 personnes supplémentaires, dites-vous. David Semeux, vous entendez parler toujours sécurité, il dit c'est bien, mais l'accessibilité, vous y pensez aussi ?
Oui, alors sur le sujet de l'accessibilité, notamment des transports, mais aussi des lycées, puisque c'est aussi un sujet qui me tient à cœur, moi je crois qu'il faut changer de modèle. On a fait de l'accessibilité une espèce de dogme. Et moi, je suis totalement pragmatique. Donc moi, ce que je souhaite, c'est qu'on travaille. Et j'ai à mes côtés Pierre Denisio, qui sera mon délégué pour l'accessibilité handicap. Nous allons travailler avec les associations d'handicapés pour que chaque type de handicap soit pris en compte et qu'on ait des trajets 100% accessibles. Mais je dis la vérité. Le métro parisien ne sera pas accessible à 100% tout de suite, en tout cas pas toutes les stations. En revanche, il y aura des trajets 100% accessibles qui permettront de se déplacer d'un point à un autre.
On n'a pas évoqué très vite, il reste très peu de temps, les tests salivaires. Je ne sais pas si les internautes s'y sont intéressés, mais vous aviez, pour lutter contre la consommation de cannabis dans les lycées, on a vu encore cette semaine dans une étude que c'était extrêmement fréquent, vous vouliez imposer des tests, ou proposer d'ailleurs, pouvez-vous les imposer ? Vous n'en avez pas la compétence.
Mais...
Des tests salivaires sur les lycéens.
Pour savoir
s'ils
ont fumé du cannabis.
Voilà. Alors, et ensuite, engager des...
Madame Martich, d'abord, le sujet, c'est simple, c'est qu'on ne peut pas satisfaire la situation actuelle. La situation actuelle, c'est un décrochage scolaire lié à des pluri-addictions. Et c'est dénoncé rapport après rapport par toutes les inspections. Donc moi, je ne suis pas là pour dire on ne peut plus rien faire, on a tout essayé. Ni contre le chômage, ni contre la drogue. Donc, je vais proposer une palette d'outils aux proviseurs. Mais le premier, c'est un référent addiction. Parce qu'on ne peut plus se...
Dans chaque lycée.
Dans chaque lycée, qui sera rémunéré en heures complémentaires par la région. Tous les personnels qui ne sont pas éducation nationale...
Un référent addiction pour faire la prévention, pour regarder si elle a la consommation
cachée... Pour faire de la prévention, cachée, pour regarder la situation du lycée et pour faire de la sécurité anti-dealer. Parce que le sujet...
Et pour proposer des tests salivaires
devant
ou pas
les portes du lycée même.
Mais bien entendu, vous savez qu'on a l'interdiction d'avoir des panneaux publicitaires à moins de 100 mètres des lycées. J'aimerais être sûre que les dealers respectent la même interdiction, Madame Martichoux. Donc le sujet, c'est une bulle de sécurité aux abords des lycées.
Pour quand ?
Très vite. Je vais réunir, je vois le recteur de la région Île-de-France cette semaine, et nous allons réunir les proviseurs et les intendants des lycées pour en parler.
Alors.
Sur les tests salivaires eux-mêmes, c'est possible aujourd'hui. Regardez SOS, Drogue Info Service, service du gouvernement. C'est possible. Ce que j'ai voulu dire aux proviseurs, c'est que s'ils souhaitaient s'engager dans cette voie, eh bien, je les aiderais. C'est évidemment optionnel, c'est évidemment avec l'accord du conseil d'administration et c'est évidemment sous le secret médical.
Merci beaucoup, Valérie Pécresse. Dernière question, très vite. Jean-François Copé, le retour. Il sera d'ailleurs sur RTL dans quelques jours. Chez Olivier Mazerolle, il a encore sa place chez Les Républicains ?
Ah mais bien entendu, tout le monde a sa place chez les Républicains à condition d'incarner et de se reconnaître dans nos valeurs.
Sous condition. Merci beaucoup Valérie Pécresse d'avoir été notre invitée dans ce grand jury RTL Le Figaro LCI. Merci Christophe Jacubizine et Alexis Brazet. À la semaine prochaine. Au revoir. Rediffusion en intégralité sur LCI ce soir 18h30.